Et maintenant, Spip.
C'est mon tour.
C'est à toi.
Spip.
Boum.
Caroline Carverne, le ton poétique, la poésie où on ne l'attend pas.
Spip.
Rencontre avec des méconnus.
Spip.
Spip.
Non. Ici Spip au gros mots, rue Lesbroussard à Ixelles. Les gros mots, c'est Vincent Cuvelier, l'écriture, l'enfance. Des livres dans plusieurs langues de plusieurs époques. Des petits jouets choisis par lui, le Vincent, et présentés ici dans ce lieu où les mots sont gros et pas que, et les images teintées d'innocence, de naïveté et d'humour. Vincent Cuvelier écrit depuis toujours ou presque et s'adresse aux enfants. Pour jouer avec nous et se balader dans les livres de camarades, Gaspard Hillent et Léopold Pasquier. Le Gaspard noircit des carnets de dessin à toute vitesse d'un trait qui n'appartient qu'à lui, comme sur un fil, qui fait danser notre petit cœur en nous faisant traverser le monde comme si on ne marquait plus ni distance ni temps entre la terre et la lune et la rivière d'à côté. Le Léo, quant à lui, laisse aussi et plutôt son crayon couler de la case d'une BD vers l'assemblage de mots seuls, comme pour épurer la ligne, et s'amuse à faire dessiner des tas d'enfants, dont les BD seront bientôt réunis au sein d'une petite anthologie.
Pour la radio, on y va ?
Quoi ?
Léopold, il va faire
un dessin.
Un dessin de Moumine.
C'est le papa qui est sur son petit bateau.
C'est cool. C'est complètement délirant, les Moumines. Hein. Moi, j'ai lu que adulte, j'ai pas lu ça, enfant. C'est complètement fou, quoi.
Moi, je sais que ça m'a plongé dans une sorte de mélancolie directement étant enfant.
Ouais, ça a l'air bizarre. Il y a un personnage qui est complètement dingue, non ?
Lequel ?
Je sais pas, je connais pas bien. Ouais.
Bah, disons que c'est quand même surtout des enfants très seuls et souvent dans des situations pleines de tristesse. Il y en a un, c'est la fin du monde. L'autre, celui-là, c'est mon préféré, c'est celui où le père, il décide que sa vie n'est pas suffisante s'il vit pas dans un phare. Il emmène toute sa famille dans cette espèce de recherche de... Ouais, il veut vivre dans un phare en plein milieu de la mer. Et il emmène sa famille sur un bout de rocher où il n'y a rien, quoi. Il sent vivre, mais en même temps... Enfin, ça suppose aussi que tout le monde se fait chier sur ce truc, sur ce bout de rocher.
Remarque, c'est un truc qui arrive souvent. Le papa qui est... Non, mais c'est vrai, ça arrive. Hein.
Et ça. Mais bien sûr, un phare, c'est ça.
Mais de quel phare tu parles, papa ?
De celui qu'on va voir.
Quand ça ?
Tout de suite. Enfin, dès que j'en aurai trouvé un. Ah, ma chérie, tu connais la dernière.
J'espère que tu n'as pas encore eu une idée.
On va voir un phare. Ah, tu vas adorer ça, oui. Allez, c'est génial. Ah, oui.
Un phare.
Ah, mais pour voir plus clair. Oui, mais je vais avoir un phare.
Au début, c'était pas spécialement écrire pour les enfants, mon truc. Bon, c'est normal, comme j'ai commencé à écrire, j'étais enfant. Quand t'es enfant, tu veux. Ouais, tu t'en fous, en fait. T'écris ni pour les enfants, ni pour les adultes, t'écris, quoi. Moi, j'ai eu envie de commencer à écrire quand j'ai eu 7-8 ans, à peu près, donc vraiment tout petit. C'est là où j'ai compris que j'aimais bien inventer des histoires, j'aimais bien écrire, même le fait d'écrire, etc. Et puis, après, je me suis tâté, je me suis dit peut-être que je voulais être dessinateur de BD. Et puis, en fait, je dessinais pas assez bien. Donc, j'ai vite... C'est comme si j'avais tout remis mes trucs dans l'écriture, en fait. D'abandonner la BD, d'abandonner d'autres trucs, j'ai tout mis dans l'écriture. Et là, j'ai vraiment compris que c'était mon truc. Alors, j'ai d'abord écrit un roman pour... un roman, quoi. Publié quand j'avais 17 ans. Et après, il y a eu des années de galère où j'arrivais pas à faire mon deuxième livre, ce qui est un peu normal. Un peu normal, hein, j'avais 20 ans, 22 ans, on n'a pas grand-chose à raconter à cet âge-là. Enfin, tu vois. Écrire un roman, il faut quand même avoir des trucs à raconter. Quand je... Et donc, je me suis remis à écrire... Enfin, j'ai jamais vraiment arrêté d'écrire. Et à un moment, bon, alors j'ai essayé d'écrire un roman policier, j'ai essayé d'écrire un roman, j'ai essayé d'écrire un bouquin de SF, j'ai essayé d'écrire une BD. Bon, en fait, ça allait pas. Il n'y a rien qui allait, ça me plaisait pas. Je sais pas pourquoi un jour je me suis dit tiens, j'ai acheté quelques bouquins pour enfants. J'ai acheté vraiment les gens connus quoi pour voir ce qui se faisait. Donc j'ai acheté un Mario de Muraille, un machin, tous les trucs un peu qui cartonnaient à l'époque, c'était dans les milieux des années 90, 90. Là je me suis dit, je suis pas tombé sur des trucs que j'ai trouvé géniaux. Par contre, quand même, je me suis dit, ah ouais, ça va, le niveau est bien, et c'est. Ben, en fait, c'est cool. Je vais pouvoir écrire là-dedans. Donc, j'ai écrit plusieurs trucs qui n'étaient pas très aboutis, et puis après, naturellement, j'ai écrit un bouquin un peu autobiographique pour ados. C'était l'histoire d'un père et de son fils qui traversaient la France à pied, et moi, j'avais traversé la France à pied 2 ans auparavant. Donc j'ai raconté cette histoire-là, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les enfants.
C'est joli, non ? Super, je réponds. Je vais rien dire pendant un mois, ça lui apprendra. Il a les chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, et il fait semblant d'être content. Mes jambes sont lourdes, mes yeux sont lourds, mon sac est lourd. J'ai froid, je baille, j'ai faim, je marche, je sais même pas pourquoi. Il est déjà 10 mètres devant moi. Il n'y a rien dans cette forêt, pas un bruit, pas un rayon de lumière. C'est nul.
Le premier prix, quand j'avais 17 ans, ça m'a fait accéder à rien du tout, en fait. Parce que j'étais beaucoup trop jeune. J'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir, après, transformer l'essai. Si tu veux, c'est comme un rugby, quoi. Tu marques un essai, après, il faut transformer l'essai. Et là, en fait, voilà, j'étais trop jeune. Donc, j'avais fait un coup énorme, qui était de publier à 17 ans. Parce que ça, c'est pas évident. Et après... J'aurais pu, peut-être pendant 6 mois, 1 an, j'avais peut-être un peu ouvert quelques portes de maisons d'édition, mais même pas tant que ça. Mais j'étais pas prêt, tout simplement, j'étais beaucoup trop jeune. Mon premier bouquin, il avait plu parce qu'il y avait un côté. C'était l'énergie qui avait plu. C'était l'espèce de côté jeune que j'avais qui en mettait plein la vue, mais après, faut canaliser ça, tu vois, pour faire une. Pour écrire plusieurs livres, pour écrire des bouquins qui tiennent la route. L'énergie, ça se canalise, en fait. Quand t'es ado, t'as juste envie de tout casser, en fait. Et donc, moi, voilà, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu 15 ans. Et après, Kilomètre Zéro, il a eu un bon accueil critique. Et donc là, après, par contre, là, les portes des maisons m'étaient ouvertes.
Kilomètre 2, c'est super nul.
Moi, j'ai démarré en 2000. Donc au moment où il y avait vraiment le début de l'explosion de la littérature jeunesse, en fait. Où il y avait, à l'époque, moi j'étais au Rouergue, en plus, qui était vraiment une boîte qui était à la mode à l'époque, où il y avait tous les graphistes et les illustrateurs à la mode qui démarraient. Il y avait d'autres maisons comme ça, hein, il y avait aussi Le Seuil, etc. Non, moi ça a commencé, j'ai commencé au moment où la littérature jeunesse commençait à devenir un peu branchée, en fait. Commençait à devenir un peu à la mode. C'est-à-dire, je fais pas partie de ceux qui ont fait tout le boulot un peu ingrat avant. Moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés où ça commençait à vendre. Par contre, avant, les gens qui ont bossé 10-20 ans avant moi, eux, ils sortaient un bouquin, un succès, ça voulait dire tout de suite 100, 200 000 exemplaires, etc. Alors moi, nous, on vendait beaucoup moins déjà parce qu'on était plus nombreux, donc un succès, c'est 50 000 exemplaires, tu vois.
Charles a un prénom de vieux, une tête de vieux, des habits de vieux, mais c'est pas un vieux. C'est un type de ma classe. Il est toujours assis devant moi. Je connais ses oreilles par cœur, ses grandes oreilles décollées et son gros dos voûté et ses cheveux coupés tellement courts qu'on le croirait chauve. Ici, personne ne lui adresse la parole, sauf pour lui demander une gomme, un crayon, une feuille, des bons becs, un résultat de division, 2 euros l'heure, n'importe quoi. Alors il soulève son visage, replace ses lunettes sur son nez et sans regarder dans les yeux, souffle. Oui, mais tu me le rends. Tu parles, Charles, j'ai encore dans ma trousse des dizaines de stylos avec la petite étiquette Charles Philippe.
Sur un livre, on a sur un bouquin là, que j'ai fait il y a 1 an, on voulait un illustrateur et on lui a dit, écoute, on veut vraiment que ce soit... que tu dessines à la main, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait retrouver un vrai trait, quoi.
Ouais.
Ça peut être le danger, le numérique, un peu, que ce soit trop parfait, trop bien. Bah, des fois, il y a des dessinateurs, on a l'impression qu'ils ont figé leur dessin. C'est-à-dire que Mais ça fait aussi pour les dessinateurs qui dessinent au trait. Hein. C'est-à-dire à un moment, notamment en BD, c'est assez frappant, à un moment, on voit qu'ils ont trouvé leur dessin parfait et ils n'en bougent plus d'un iota. Et du coup, c'est presque... c'est froid, alors, c'est un peu...
Ah oui, ou alors ça devient une pâte et... Oui,
ouais, c'est ça, que... ou alors même, ça devient des trucs, en
fait. On pourrait voir chez... Enfin, je sais pas... Dupuis Berberian, par exemple, comment ils ont genre, saisi... Même si ça reste un truc très libre, c'est quand même super raide, en fait. Enfin, super figé, ouais. Bien foutu, tu vois.
C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que maintenant, ils dessinent chacun de leur côté et que...
Après, ils essaient un peu de s'ouvrir plus du Dupuis que Berberian, qui est plus... C'est plus figé, lui,
Mais on voit pour des dessinateurs classiques, hein, par exemple les mecs qui font les tuniques bleues, on voit bien à un moment le dessin, tac, il s'arrête. Je sais pas, il a dû s'arrêter genre à mon avis, genre en 1982, et là on sent ça y est, peu plus évolué. Mais Uderzo c'est pareil, et souvent les grands dessinateurs, ils ont ce côté-là où ils arrivent pas à aller plus loin en fait.
Surtout ils atteignent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent être le bon truc, et puis c'est bon quoi, après...
Oui, mais il y en a qui sont toujours dans la recherche, hein, même des dessinateurs classiques, hein. Il y a des gens, je sais pas, Herman, on sent que c'est un mec qui est toujours dans la recherche. Moebius, il avait jamais arrêté.
Moebius, il va quand même bien aussi.
Un peu figé son truc.
Mais après, c'est pas plus mal. Je pense que ces mecs-là, ils cherchent de leur plaisir dans autre chose, dans la compo de la page, dans l'efficacité de la narration. Enfin, voilà quoi. Une fois qu'il. Je pense que déjà, de trouver son style, ça doit être une telle galère. Enfin, c'est un tel truc, tu vois. Vraiment figer son truc. Ces mecs-là, une fois qu'ils l'ont, bah enfin quoi.
C'est vrai,
c'est comme une étape dans la vie d'un auteur de BD, j'ai l'impression. C'est. Je sais pas.
Ah si, si, ouais, je pense aussi.
Moi, ça m'intéresse pas trop du coup, ça. Figer le truc.
Moi, en écrivant, je me rends compte qu'il y a ça. Bon, il y a un moment, tu trouves ce que c'est ton truc. Et après, t'as le choix. C'est-à-dire, soit tu refais 10 fois le même livre, soit tu essayes de.
Ouais.
Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'un écrivain, il raconte toujours la même histoire. Il y a un peu de ça. C'est peut-être pas toujours la même histoire, mais en tout cas, à mon avis, on a 4 ou 5 trucs qu'on raconte, et puis voilà, on change un peu de manière de le raconter. Ouais. Quoi. Mais c'est vrai que c'est grosso modo, on tourne tous. Chaque écrivain que je connais, moi, on a tous voilà, quelques trucs comme ça qui reviennent tout le temps. Après, moi je sais que quand je bloque, je change de technique, on va dire, je change de support, par exemple.
Ouais.
À un moment, je bloquais, je faisais des petits romans, genre Petit Nicolas, je tournais en rond complètement. Et tac, j'ai arrêté d'en faire et j'ai commencé à faire des albums. Et là, grâce aux albums, j'ai réussi à aller dans un truc que j'avais jamais fait. Et quand je commence à tourner en rond dans les albums, tac, je pars ailleurs, je pars BD, le livre musical. Mais ça, c'est de temps en temps. Et sinon, à l'intérieur de ton style, tu peux aussi... Moi, chaque bouquin, je le vois comme un défi technique aussi. Alors ça ne regarde pas les gens, ça regarde moi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est pas forcément ce que j'ai raconté. Ça, c'est bon, d'accord, il y a une histoire à raconter, il y a des personnages, il y a tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est moi, professionnellement, faire un truc que j'ai jamais fait. C'est comme un ébéniste qui fait des commodes et il va se lancer dans un escalier, quoi. Et un truc qu'il n'a jamais fait, il va essayer de voir. Moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand j'ai fait un bouquin d'une manière, le coup d'après, j'essaye de faire un truc que j'ai jamais fait techniquement. C'est-à-dire, je me mets un peu des défis techniques pour pouvoir évoluer dans mon métier. Parce que j'ai toujours vu mon métier comme une profession, comme une autre. Et une profession, on doit normalement passer des paliers, réussir à faire des choses qu'on n'a pas fait avant, etc.
Comment tu veux dire par technique, qu'est-ce que tu veux?
Bah technique, moi, c'est par exemple une narration particulière que j'ai encore jamais essayé. C'est par exemple le bouquin que tu feuilletais, par exemple, tout à l'heure, il y a 10 narrateurs différents. Ouais, il y a 10 personnes. Ouais, celui-là, l'histoire de Clara. Il y a... Donc en fait, il y a 10 personnages différents.
C'est un récit choral sur un point.
Ouais, c'est ça. C'est une petite fille qui est sauvée par 10 personnes différentes. Et chaque personne qui la sauve raconte comment ils l'ont rencontrée, cette petite fille. Donc en fait, c'est 10 styles différents pour chaque chapitre, en fait.
Ouais, tu te mets des contraintes comme ça aussi pour un peu explorer des choses.
Ouais, alors c'est pas de contraintes, comment dire. C'est pas des vraies contraintes, dans le sens où c'est moi qui les choisis, tu vois. C'est,
Ouais.
Mais disons que dans chacun de mes bouquins, j'essaye de trouver un truc narratif que j'ai encore jamais fait.
Je m'approche d'elle et je lui demande juste, ça va ? Elle baisse la tête d'un air boudeur et croise les bras. Je passe ma main dans sa tignasse blonde et je lui dis « Ils sont beaux tes cheveux, dis donc. » Alors, je ne sais pas pourquoi son visage entier se déforme. Ses yeux deviennent des plaques de petits souvenirs de bébé. Saute dedans à pieds joints. Elle pleure, comme une petite fille n'a jamais pleuré. Elle pleure toutes les larmes de l'Europe. Une larme pour la Pologne, une larme pour la France, une larme pour les plages rouges de Normandie, une larme pour les champs rouges d'Ukraine. Il y a même une larme pour l'Allemagne, une larme pour les autres, pour les enfants, une larme pour leurs parents, et toutes les autres larmes de son corps de bébé pour sa maman. Et moi, qu'elle n'a jamais vue, moi qui ne peux plus pleurer. Je l'ai pris dans mes bras et je lui dis tout doucement à l'oreille. Pleure Clara, pleure ma petite Clara. Tu peux pleurer tant que tu veux. Ici, il ne peut plus rien t'arriver. Tu peux pleurer le jour, la nuit et le reste du temps. Sourire aussi s'il te reste un peu de place. 2 heures plus tard, elle dort enfin, un morceau de drap dans la bouche, ses petits doigts étendus dans la paume de maman.
T'en as autant chez toi, Lévi ?
Non, j'en ai moins. Mais justement, j'ai monté la boutique aussi pour avoir mon bouquin chez moi. C'était complètement dingue. Et en fait, ça m'a fait bizarre, mais quand j'ai monté la boutique, en fait, il y avait toujours plein de bouquins chez moi. Je pensais que j'aurais réussi à me débarrasser. Pourtant, j'en ai viré la moitié quasiment. Et je me retrouve toujours encore avec. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'adore acheter. Et du coup, la boutique, ça me donne une excuse pour continuer à acheter. En fait. Donc du coup, maintenant, quand je vais dans les brocantes, je suis encore plus détendu parce que j'ai l'excuse du magasin pour acheter. Mais là, dans la boutique, il y a quand même, je sais pas, un quart de bouquin qui était à moi, quoi. Enfin, plus maintenant, hein, ça fait un an que j'ai ouvert, ils sont quasiment tous vendus, mais il y avait beaucoup de livres qui étaient à moi, quoi.
Du coup, t'écris ici aussi, non ?
Ouais, c'est mon bureau. Ouais, c'est mon bureau, alors c'est assez cool. Enfin, des fois, j'écris chez moi, et puis de temps en temps, selon le genre de boulot que j'ai à faire, en fait, des fois, je le fais ici. Et du coup, je laisse ouvert, donc comme ça, quand il y a des clients, je les laisse rentrer aussi, c'est cool. En fait, je voulais faire un endroit qui soit vraiment consacré à l'enfance, aux livres, aux vieux jouets. Je voulais que ce soit un endroit vraiment où il n'y a que ça, quoi.
Ouais.
En fait, il y a beaucoup de librairies pour enfants, mais c'est que des trucs neufs. Donc
ouais.
C'est toujours un peu les mêmes trucs qu'on voit, quoi.
Mmh.
Là, moi, je veux vraiment mettre les choses que j'aime bien en avant. Donc, c'est aussi une certaine idée de l'enfance que je veux mettre en avant. Quand tu vois dans la vitrine, là, quand je mets le bouquin d'Alain Le Sceau, Interdit toléré, avec le gamin qui monte ses fesses. Puis juste à côté, je mets le gamin de Claude Lapointe avec une petite gamine gitane qui vit dans la rue, machin. Enfin, tout ça, tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment le genre de livre pour enfants que je mets en avant, enfin, tu vois.
Mm.
Et à côté, il y a un roman illustré par Topor, un Romain Gary, un machin. Enfin, oui, c'est vraiment une vision aussi de. La littérature de l'enfance que je veux mettre, que j'aime bien mettre en avant. Émile, le premier Émile, on voyait le petit garçon tout nu, etc. C'est passé. Il n'y a pas eu de problème. Je sais que de temps en temps, mon deuxième bouquin, il y avait une chauffeuse de bus qui fumait comme un pompier, qui buvait des whisky et machin, tout ça. Elle amenait le gamin en bar et tout. Je sais pas si aujourd'hui ça marcherait, ça.
Elle pue, elle est moche, elle a un gros pif. Je la vois tous les jours et tous les jours, j'ai envie de lui dire « Tu pues, t'es moche, t'as un gros pif. » Mais tous les jours, je lui dis « Bonjour madame » et je lui montre ma carte de bus avec ma photo dessus. C'est mon chauffeur, ma chauffeuse. Je ne sais pas comment on dit celle qui conduit le car. C'est à cause d'elle que j'arrive à l'heure à l'école. La tétresse ou la tête. ou la traître. Parce qu'on ne sait pas. Il y en a qui disent des trucs bizarres.
Et on a l'impression que la BD, c'est un truc libre, un truc cool, etc. Non, en fait, dès qu'on commence à parler de certains sujets, c'est « oh, Et curieusement, il y a beaucoup plus de liberté en littérature jeunesse. La littérature jeunesse est encore un endroit où on peut y aller, où on peut faire des trucs assez audacieux, etc. Peut-être parce que on a très peu de presse, on passe jamais à la télé, on passe jamais dans les journaux, on est relativement protégé des médias, on vend bien, mais disons qu'on vend régulièrement, mais il y a rarement des bouquins qui passent dans le grand public, tu vois. Y a... Une fois tous les 5 ans, il y a un bouquin, tout le monde en parle, mais sinon, tu vois, on... Je sais pas, moi par exemple, j'ai une carrière honorable depuis 20 ans, tu vois, je vends pas mal, je suis un peu connu dans le milieu, etc. Mais personne me connaît dans le grand public, tu vois. Tu dis, ouais. Personne sait qui je suis. Si je faisais de la BD ou de la chanson, machin, je serais un peu connu, tu vois. Et du coup, c'est pas mal parce que ça nous donne, on est un peu protégé. Et en fait, c'est plutôt un avantage.
Je suis en train de faire un bouquin pour la boîte d'édition de Maureen Dorf. Je suis en train de faire un bouquin sur les chefs, la notion de chef, pour les enfants, pour les ados. Qu'est-ce que c'est un chef? Donc je fais des portraits de différents chefs. Donc, bon chef, le mauvais chef, le chef tyrannique, le chef solitaire...
Mais comme t'avais fait les présidents, je sais pas quoi, non?
Ouais, voilà, c'est un peu dans le même esprit.
Je crois que tu voulais pas trop faire des trucs didactiques...
Ouais, mais de temps en temps, j'en fais, des documentaires. En fait, quand je fais de la fiction, je veux pas du tout que ce soit didactique. Mais quand c'est du documentaire, bon voilà, c'est le jeu, tu vois, là je veux bien être didactique, parce que je suis passionné d'histoire aussi, et c'est aussi une manière pour moi, comme j'ai pas été à l'école très longtemps, c'est un peu une manière pour moi aussi de... Je sais pas comment dire. Moi j'ai arrêté l'école en troisième, à 16 ans. Donc pour moi, de faire des livres qui parlent d'histoire, c'est une manière aussi, tu vois, d'essayer de raconter différemment. De prendre peut-être un peu aussi une revanche sur le truc scolaire.
Ouais.
Et puis bon, tout simplement, j'adore l'histoire, hein, c'est aussi un peu ça. Et puis je suis en train de faire des histoires aussi pour des boîtes à histoire qui sont vendues dans les magasins de jouets. Bon, ça c'est vrai que ça fait un peu commande, ça fait un peu machin. C'est vrai que normalement j'en fais jamais, mais bon, j'en fais un peu. Et puis sinon, j'ai commencé un roman il y a quelques jours, là, je vais voir ce que ça donne. En fait, moi, je peux jamais dire sur quoi je travaille parce que j'ai toujours une dizaine de projets en cours à peu près. Donc, il y a des trucs qui sont bien avancés, des trucs très peu avancés, etc. Et sur cette dizaine de projets en cours, j'en réalise toujours 6 ou 7 à peu près, quoi. Tu vois, je suis pas du genre à faire. Une BD ou un roman, et puis à passer 1, 2 ans, 3 ans dessus, et à rien faire d'autre. Moi, je suis du genre à avoir une dizaine de projets en cours. Et puis sur les 10, bon voilà, il y en a toujours un qui marche, un qui marche pas. J'ai une BD en cours, j'ai plein de choses en cours, en fait. J'ai vraiment beaucoup de choses.
Et vous travaillez sur quoi, là, ces temps-ci? Vous êtes...
Moi, ça fait un an que je dessine plus.
Ah bon?
Ouais, j'en avais un peu marre. Enfin, du moins, tu vois, c'est comme toi quand tu dis. Quand tu te sens à trop faire le même truc, tu te donnes d'autres missions. Et puis là, moi, plus radicalement, j'essaie de plus écrire et je fais plus de dessin. Mais j'écris, mais je fais plus de dessin. Par contre, ça fait 5-6 ans quoi, que j'anime des ateliers avec des enfants, quoi. Et moi, ça m'excite plus en ce moment. Alors, depuis quelques temps, là, je fais des bouquins avec eux, quoi. J'ai la chance de travailler avec des écoles qui sont OK pour mettre le budget qu'il faut pour faire une impression correcte. Moi, c'est ça, je trouve beaucoup de plaisir à travailler, du coup, toute l'année avec les enfants pour avoir vraiment de la qualité. Enfin, un truc qui kiffe bien, même s'ils veulent faire du manga, même s'ils veulent faire ça. Et même d'ailleurs, enfin, ils dessinent en général, il y a un bon niveau, quoi. Je travaille vraiment avec des assez jeunes, quoi, à partir de 6 ans.
Et t'écris des trucs?
Ouais, j'écris, c'est plus des poèmes, des trucs courts, d'accord. Quoi. J'avais besoin vraiment, la bande dessinée, c'est un truc trop... qui m'épuisait... sur des années, quoi. Enfin, je prenais des années pour faire 30 pages, quoi. Et là, j'avais besoin de faire des choses qui soient finies assez vite, quoi.
Donc, bah, c'est très spécial, là, mais...
Bah oui, non, mais moi, je bosse en ce moment pas mal sur différents projets de vie pour enfants, ouais. Mais solo, quoi. Donc, parce que moi, je viens de la BD et j'ai fait un peu une grosse crise à mes 24 piges après avoir fini un album bien long, bien... je veux avoir la gloire, tu vois.
Qui a été publié ?
À l'Employé du Mois. Par Max et tout ça.
C'était comment, ça ?
Ah oui,
ça
oui, j'ai vu.
Éclosion. Puis après, bah, moi, je me suis lancé dans la musique, en fait, pendant très longtemps.
Pourquoi tu montres monsieur ?
Parce que lui, je connais par la musique. Du coup, ça a été une longue aventure de la vingtaine d'Europe. C'était chouette. Et ça m'a un peu mis
c'est trop chiant.
Forcément, c'est un peu chiant. Et puis, petit à petit, je me suis mis dans l'idée de faire des livres enfants parce qu'effectivement, c'était peut-être plus expéditif. Enfin, il y a moyen d'être plus direct. Enfin, un truc comme ça dépend. Mais...
Ça dépend ce qu'on a raconté.
Voilà, c'est ça. Mais...
Chaque truc a
son. J'avais envie de trouver un truc genre, vraiment où le dessin s'exprime purement délié, où j'y aille, etc. Le problème, c'est que j'ai commencé à faire un premier livre où je me suis mis exactement dans le même genre de délire que quand je faisais de la BD, c'est-à-dire tout super chiaté, vraiment j'étais trop ambitieux. Puis là, depuis un an, en fait, j'ai arrêté le groupe et voilà. J'ai arrêté le groupe et je me suis remis à fond dans le dessin. Et dans un dessin où j'essaie justement d'être purement un peu crado, un peu vite fait, mais pas vite fait, mais... Enfin, moi, vraiment, là, je regarde vraiment André François, c'est ça, c'est André François.
Ah ouais.
Et c'est cette espèce de truc où, c'est un peu foiré, mais en même temps, c'est cool, et puis voilà. J'ai envie d'y aller, là, comme ça, et ça me permet de faire des projets assez rapides. Quoi.
Moi, ce que j'ai réussi à faire lire à mon fils ces derniers temps, ça, c'est cool.
Une tunique bleue, ouais.
C'est super. J'adorerais aussi. Ouais. Ça fait longtemps, j'insistais pour qu'il lise. C'est vieux, papa. Et puis là, il s'y est mis, il adore. C'est quand même trop bien.
Ouais, j'ai jamais lu, quoi. Non, c'est cool, parce que je considérais, quand j'étais petit, justement, voilà, c'était un truc que mon oncle collectionnait, quoi. Tu vois. Mon oncle banquier, quoi, tu vois. Je collectionne des tuniques bleues, quoi. Et du coup, je trouve pas ça...
Ah non, c'est un vrai truc cool.
C'est Blutch qui fait semblant de mourir tout le temps.
C'est Blutch qui est bon, super anti-militariste, super mauvais esprit, il est bien. Il y avait une scène que j'avais adorée dans Goulibine, le film.
Là, j'ai pas vu.
Ouais. On doit pas être nombreux à citer. j'avais bien aimé. On doit pas être nombreux à citer comme référence à Boulet-Ville avec Franck Dubois.
T'as vu, toi ?
Non, j'ai pas toutes les adaptations BD franco-belges là.
J'ai pas suivi.
J'ai entendu quelqu'un qui s'est élevé pour dire que Gaston était bien en fait.
C'est
Qui ça
Il dit
c'est bien en fait.
Gaston, je sais pas, c'est... le petit Nicolas, j'ai trouvé ça pas mal. Boulet-Ville, j'ai trouvé ça vachement bien. Spirou, c'est complètement raté. C'est pas bien du tout.
Et du coup, là.
Tamara, c'était pas bien.
Il y a eu Tamara aussi.
Et du coup, le boulet Bill, voilà, qu'est-ce que
c'est ? Ouais, alors c'est génial. À un moment, tu sais, le père de Boule, en fait, c'est Roba. En fait, ils ont fait comme si c'était Roba. Il va bosser dans une boîte, tu sais, qui fait des grippins, des dessinateurs industriels. Puis donc, à un moment, ils doivent déménager et ils doivent aller dans une espèce de tour. Ça se passe dans les années 70. Avec, tu sais, c'est le début des grandes tours, tu vois, genre la Défense, un truc comme ça. Et puis il y a Marina Foïs qui arrive en dessous dans le parking, il y a l'immense tour, et puis elle va voir son mari, et je lui fais « Mais où est-ce que tu nous as emmenés ?» Putain, j'ai trouvé ça, mais génial. C'est exactement ça. J'ai adoré ça. Tu regardes tous les films des années 70 et 60. Je m'étais amusé un jour, dans quasiment la plupart des films français, il y a des tours en construction, en fait. Tu vois, Buffet froid de Blier, tu vois, des films avec Gabin, avec la petite maison entourée d'immeubles.
Les Romères aussi.
Les Romères, les Romères vachement. Ouais. Des chantiers partout.
Ouais.
Des chantiers et des bagnoles.
Ouais.
Tous les sautés, t'as des bagnoles. Tous les films aussi avec Belmondo, pareil, t'as des tours en construction. Tu vois, le film qui est vachement bien, là, Peur sur la ville, avec Minos. T'as que des tours en construction, des machins, mais c'est génial.